travaille avec notre dernière invitée de la matinée que j'accueille avec beaucoup de plaisir, Axel Jajviquet. Bonjour Axel, comment ça va?
Bonjour Aïssa.
Alors d'habitude, c'est le vendredi qu'on entend ta douce voix et tes conseils si précieux, hein, puisque tu es conseillère en relation et que tu donnes tes conseils aux auditeurs de la radio africaine à travers les nouveaux rendez-vous santé. Alors tu es aussi auteur. Tu te définis comme une féministe païenne, comme une afro-parisienne, et tu es aussi administratrice, je vais y arriver, au sein du GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles.
Absolument.
Merci de nous rejoindre sur le plateau de la radio africaine. Tu es venue nous parler de ton actualité, nous raconter un petit peu qui tu es, Axel. Et tu es surtout venue nous parler d'un podcast que tu as lancé un petit peu avant l'été. Ça s'appelle « Me, My Sex and I », un podcast consacré à l'intimité des femmes noires. Alors le rendez-vous, c'est tous les deux vendredis du mois, donc un vendredi sur deux. Et c'est un podcast, en fait, qui est un genre d'immersion dans l'intimité de femmes, de personnalités, blogueuses, journalistes, auteurs et autres. Alors, la première question que j'avais envie de te poser, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place ce podcast « Me, My Sex and I » ?
Alors, je constatais, moi, en tout cas, qu'il me manquait une parole public partagé sur le vécu de femmes noires. Je déplorais qu'on soit toujours circonscrit aux questions autour des discriminations, du racisme, de Beyoncé, toutes les questions que vous connaissez tous. Et il n'y avait rien qui portait sur la construction personnelle, l'estime de soi. Les rapports intrafamiliaux et le rapport à soi-même, en fait.
Ouais.
Et c'était moi vraiment, plus les années passaient, plus ça me chauffait, en fait. Ouais. Parce que c'était des questions qui me concernaient en premier lieu et c'est un chemin que, j'ai emprunté. Personnel.
C'est un peu comme si ces problématiques n'existaient pas pour les femmes noires. J'ai l'impression que ça te...
On est totalement exclus de ces conversations. Ouais. C'était effectivement comme si on n'était pas des personnes, on n'est que des noirs. C'est-à-dire qu'à aucun moment on est mis en avant pour nos ressentis, nos interactions, nos vécus intimes et personnels. Et vraiment, ma première tentative, ça a été en 2012 d'en faire un ouvrage littéraire.
Ouais.
Et j'avais réussi à convaincre Léonora Miano d'en faire la préface.
Ouais.
Et malheureusement, aucun éditeur de la Place de Paris n'a semblé intéressé par un ouvrage de cet ordre-là. Allez savoir pourquoi. Et du coup, j'avais un peu remisé ça dans un tiroir.
Ouais,
voilà. Et puis en 2015... je ressors le truc en me disant, bon, moi, je peux peut-être en faire un documentaire, machin, tout ça. Je commence à envisager ça. Et puis, il y a Volcanique, une anthologie du plaisir, donc qui est ce recueil collectif autour du plaisir féminin.
Ah là, à ce moment-là, tu as dû te dire,
voilà. Auquel j'ai pris part et qui sort et qui reçoit l'accueil public qu'on sait. Et du coup, je me retrouve plutôt à travailler autour de cette question-là et de la question du plaisir féminin, mais c'est toujours dans un coin de ma tête.
Et tu peux l'enlever, le casque.
Merci.
<C'est très bien. rire>
Merci. C'est ce que vraiment on ne s'est pas montré. Et finalement, en 2017, j'ai l'occasion, moi, d'être interviewée dans le cadre d'une émission de France Inter qui s'appelle « À ton âge » avec Caroline Gillet,
ouais.
Qui est une émission qui porte sur le parcours personnel des uns et des autres. Et cette émission-là est quelque chose qui est l'élément déclencheur, en fait, chez moi, parce que je fais quelque chose qui, moi, me libère grandement. Parce que, il faut dire que Caroline est une très grande intervieweuse et a réussi à faire quelque chose d'assez prodigieux avec moi et ma fille.
Ouais.
Et à l'issue de cette émission-là, j'en parle avec elle. Je lui dis, j'ai cette idée, j'aimerais bien interroger les femmes noires sur leur intimité, etc. Et en fait, Caroline est la première personne à me soutenir, en fait, à me dire, mais fonce, c'est une super idée, vas-y. Comme je suis moi grosse auditrice de podcast depuis des années,
ouais.
Je me dis ok, tu sais quoi, vas-y, tente le coup. Donc je tente le coup de manière formelle, c'est-à-dire que je soumets d'abord le projet une production de podcast historique et puis il y a une autre maison de production de podcast. Et dans les deux cas, je m'aperçois qu'ils ne comprennent pas ce que je veux faire. Ils ne comprennent pas en quoi l'intimité peut être un sujet de podcast et surtout l'intimité des personnes noires.
D'accord.
Et là, je me dis, ok, bah, va falloir que tu y ailles. Il faut que tu le fasses toute seule. Et donc, je fais un emprunt personnel. Et c'est comme ça qu'est née Me, My Sex and I, que j'ai mis, donc, dont le premier épisode a été à l'antenne, donc au mois de mai. Et voilà, depuis, il y en a eu 7. Le dernier était là, début août. Les témoignages vont de 35 à 71 ans.
Ouais.
Ce sont des femmes avec, comme tu l'as dit en intro, des parcours de vie complètement différents. Il y a aussi des anonymes, il n'y a pas que des femmes connues ou des blogueuses.
Il y a Fatou Ndiaye, par exemple.
Il y a Fatou Ndiaye, mais qu'on n'a jamais entendu de cette manière-là, je pense.
Justement, comment tu réussis à les convaincre ?
Alors, moi, c'est ce
Est-ce qu'elles disent non ? Est-ce qu'elles se braquent au début quand tu
Pas du tout, parce qu'en fait, je crois que le fait que je ne sois pas journaliste, le fait qu'elles me connaissent, moi, de par mon parcours perso et de mon histoire, fait que je suis à un endroit où elles se sentent en confiance pour me livrer des choses qu'elles pourraient peut-être pas livrer à d'autres personnes. Parce qu'elles savent que moi, j'ai déjà abordé à titre personnel toutes ces questions-là et j'ai pas hésité à me livrer.
Donc il y a une forme de confiance.
Il y a une confiance absolue. Et puis, pendant moi, les interviews, je dis toujours, s'il y a quelque chose que tu souhaites qu'on coupe, que tu regrettes d'avoir dit parce que ça peut porter préjudice à d'autres gens, tu n'hésites pas, tu me le dis, on le coupe au montage. Et ça n'est jamais arrivé.
Jamais ?
Jamais arrivé. Et tout ce que vous avez est vraiment ce qu'elles m'ont livré.
Et après, une fois que c'est posté, c'est quoi le retour des participants ?
Et c'est ça qui est magnifique, c'est que moi, je me suis découvert, alors là, on est à un peu plus de 50 000 écoutes, toutes plateformes confondues, ce qui est absolument
sur
prodigieux.
Des, podcasts. Sur
l'ensemble des podcasts, toutes plateformes confondues, ce qui est assez prodigieux pour ce qu'on appelle un podcast natif, avec promotion de quelque ordre, voilà, que ce soit à part moi et mes réseaux sociaux. J'ai découvert des auditrices, beaucoup d'auditrices. Les auditeurs s'adressent très très peu à moi, mais il y en a quelques-uns qui m'ont dit que je leur avais pour certaines fait gagner 10 ans de thérapie en écoutant ces émissions, parce qu'elles c'était la première fois pour beaucoup d'entre elles qu'elles se posaient des questions à titre personnel, parce qu'en entendant les autres répondre à mes questions, elles se sont posées les mêmes questions pour elles-mêmes, en se disant, mais en fait, j'ai jamais réfléchi à ça. C'est quoi l'histoire de mes parents ? Effectivement, ah ouais, mon approche de la sexualité, ça a été quoi ? Comment ? Où ?
Mais pourquoi les femmes noires ne se posent pas plus tôt ces questions ? Après, c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, parce qu'il y a plein de choses à dire à ce sujet. C'est vrai que souvent, la sexualité de la femme noire, elle est un peu considérée. Lorsqu'on en donne des synonymes et qu'on la compare à d'autres sexualités, on parle souvent, c'est des mots, des noms d'animaux qui reviennent. Sexualité sauvage.
Fétichisée.
Elle est, la gazelle. Oui, ce sont des panthères au lit.
Mais tellement, tellement nous le savons toutes, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je voulais mettre les pieds dans le plat, parce qu'à un moment donné, nous faisons les frais de l'interprétation des autres quant à notre personne, et si nous ne sommes pas les premières à prendre la parole sur ces sujets-là, les autres vont continuer à se faire des films. Et le déficit qu'on avait, c'est qu'il n'y avait aucune parole sur l'intime.
Mais il n'y a pas de sexologue afro aussi. Lorsqu'on a cherché une sexologue, ça a été très compliqué. Non, mais c'est vrai.
Mais ce sont effectivement des domaines auxquels on n'associe pas d'emblée des personnes afro, en fait. Alors que c'est des domaines qui nous concernent. C'est quand même des putains de sujets... Pardon. Ce sont des sujets universels.
C'est des sujets centraux aussi.
Ça irrigue nos vies, la famille, la sexualité, les rapports de couple, les rapports amicaux. Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais interrogé, nous, là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on peut faire entendre nos paroles, il faut qu'on se cantonne aux sujets qui ont trait à la discrimination, au racisme, aux inégalités ? Pourquoi ? Pourquoi on ne prend pas part au reste de la conversation ? Et moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui se démarque de ça.
Alors, au-delà de tes activités, est-ce que tu peux te présenter afro-parisienne? Je sais que tu as des origines camerounaises. Tu es née à Paris, je suppose.
Non, même non pas. Je suis née à Yaoundé. Je suis arrivée d'accord ici après. Pardon.
Okay, très bien.
Non, non.
Alors,
non.
Raconte-nous un petit peu ton parcours et quel a été le déclic. Alors, tu me parlais de personnes que tu as rencontrées sur ton chemin qui t'ont aidé également à déjà à t'intéresser à ces sujets et à te poser des questions sur toi, ta vie, tes rapports, ton rapport à l'autre, ta sexualité, etc. Raconte-nous un petit peu ton parcours.
Alors moi, j'ai un parcours un peu chaotique pour ce qui est du début de vie. Donc, je suis arrivée ici enfant. J'ai été envoyée ici par ma mère qui m'a confié à ses deux fils aînés qui étaient les enfants de son premier lit.
Ouais.
Il faut savoir que ma mère a été mariée contre son gré quand elle avait 12 ans. Elle est devenue mère à 13 et puis
ouais
à 15.
Ouais.
Et moi, je suis arrivée bien des années plus tard dans sa vie parce que je ne suis pas la fille de l'homme auquel elle a été mariée contre son gré, mais de l'homme qu'elle a choisi et aimé. Et donc, dans les termes voulus, habituels, usités, je suis donc une bâtarde.
Un enfant de l'amour.
Voilà.
De l'amour.
Ouais. Mais
quand
ça s'appelle un enfant de l'amour. Moi, personnellement, je préfère ce terme-là.
Là, c'est beaucoup mieux.
Mais voilà. En tout cas, j'ai été envisagée de la sorte.
Ouais.
Et donc, envoyée en France, voilà, pour rejoindre ses deux fils. Et puis, le premier fils, qui était celui qui était chargé de s'occuper de moi, a failli à ses obligations. Il m'a laissé entre les mains du fils cadet. Et les choses se sont très, très mal passées. Tellement mal passées que moi, je me suis enfuie de la maison. J'avais 17 ans. Et je suis partie sans jamais me retourner et en laissant beaucoup, beaucoup de choses derrière moi. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas une seule photo de moi enfant, puisque je suis partie sans rien prendre. Et je n'ai jamais pu montrer de photo de moi enfant à mon entourage ni à ma fille. Ce qui commence à me turlupiner un peu maintenant à l'âge un peu avancé que
ouais,
j'ai. Voilà, c'est
ce qui
voilà,
est un
c'est,
peu normal,
ouais,
qu'on comprend.
C'est, ouais, je suis un peu genre, mais un jour je vais être grand-mère et je vais pas pouvoir, j'aurai rien à leur montrer, quoi. Avant 17 ans, il n'y a pas d'image, quoi.
En gros, t'as dû te construire toute seule.
Et j'ai dû me construire toute seule. Je suis partie. J'ai eu beaucoup de chance sur mon chemin. Moi, j'ai rencontré plein d'êtres vraiment bienveillants. Qui m'ont tendu la main et permis de construire en fait un cheminement qui est bon voilà celui qu'il est mais qui est le mien aujourd'hui. Donc voilà, je me suis retrouvée mariée à 19 ans, mais moi j'avais choisi mon mari et voilà, tout allait bien. Maman à 20, donc voilà, je suis une maman, je suis une belle maman.
Mamie aussi peut-être bientôt.
Ouais, je suis une belle grand-maman parce que ma belle-fille
ouais
est devenue maman il y a un an et demi et donc je suis belle grand-maman.
Ah ouais, super.
Voilà, ouais, je suis trois générations là, moi toute seule là, du haut de mes 47 piges. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi aussi. Ça se retrouve dans le travail que je peux faire maintenant. Parce que je suis très... ça m'importe beaucoup de savoir ce que je vais laisser derrière pour elle, pour ma fille,
ouais,
pour ma belle-fille, pour
ouais
ma petite-fille. Et j'ai envie d'œuvrer à ce qu'il soit possible pour elle d'être le plus authentiquement elle-même possible. Voilà. Donc moi, j'apporte ma pierre à l'édifice de ça. Je rends possible, en tout cas, j'espère, une expression d'elle-même qui sera admissible d'ici 10 ans ou 20 ans. Et j'espère, j'espère laisser une empreinte plutôt solaire, quoi, plutôt.
C'est le cas en tout cas parce que t'es le cas de... Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, la question que je voulais te poser aussi, c'est assumer sa sexualité, etc. Pourquoi c'était important pour toi et comment c'est arrivé dans ta vie?
Alors, c'est malheureusement arrivé dans ma vie de manière dramatique parce qu'en fait, moi, j'ai été violée à 11 ans. Dans cette fameuse maison où j'ai grandi avec
pas
ce frère.
Dans ce cercle familial.
Voilà, dans ce. Mais c'est 90% des agresseurs, c'est des gens qu'on connaît en fait. C'est pas l'inconnu au coin de la rue dans un parking le soir très tard. Hein. Cette histoire-là, c'est vraiment une légende. Elle arrive, hein, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Et effectivement, moi, je correspond au profil de l'entourage proche. Donc moi j'ai 11 ans en fait quand ça m'arrive et de manière assez triste, c'est la première fois où je vais prendre conscience de mon sexe, puisqu'on vient de se l'approprier et on vient de le saccager. Et à la suite, en fait, de cette agression, je vais avoir besoin de comprendre ce qu'on m'a fait. Donc, je vais aller chercher dans les livres, moi, parce que je suis un petit rat de bibliothèque
ouais,
à l'époque.
Ouais, en même temps, t'avais pas de figure maternelle.
Ouais, il y avait, bah non, j'étais éduquée par deux frères.
À toi-même, quoi.
Les femmes qui passaient à la maison passaient de manière sporadique parce que c'était leurs petites amies et, bah, elles restaient pas toujours. Et puis, pour les petites amies, j'étais la petite sœur de ces mecs-là.
Ouais.
Donc, elles n'avaient aucun droit sur moi et elles se considéraient pas comme responsables
elles
de quoi que ce soit.
Elles n'avaient pas trop le
temps. Bah non, elles n'avaient pas. En plus, elles n'avaient carrément pas le temps de s'occuper de la petite Zarbi, là, de voilà, la petite gamine un peu bizarre, là. Donc, je suis allée chercher là où, voilà, où je savais que je pouvais trouver des choses, donc dans les livres. Et je me suis réappropriée, moi, par la lecture, mon intimité et... De manière assez incroyable, ma sexualité aussi, parce que dans les livres que j'ai trouvés, il y avait également des livres érotiques.
Harlequin, tout ça, tout ça.
Alors, pas la bibliothèque. À la bibliothèque, t'as des livres genre Henri Miller et Anaïs Nin, enfin, tu vois, du lourd en matière de littérature érotique.
D'accord.
À la libre disposition du public. Comme je faisais plus que mon âge et que je lisais beaucoup et que les dames de la bibliothèque, elles m'aimaient beaucoup, elles ne se sont jamais préoccupées de savoir si c'était mon âge ou pas. Et je crois qu'elles n'avaient pas lu les bouquins que je prenais, surtout. Et du coup, en fait, moi, je me suis créé un imaginaire, je me suis réapproprié un imaginaire là-dessus. Donc, c'est d'abord passé par ma tête. Et petit à petit, en fait, j'ai pu reconquérir une intimité qui était la mienne en mettant à distance, à la bonne distance, l'agression qui avait eu lieu et en comprenant que l'agression parlait de lui, pas de moi. Et que si moi, je décidais que mon corps... m'appartenait, ma sexualité m'appartenait et que je pouvais prendre plaisir à cette dernière, rien ne m'en empêchait en fait. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis réapproprié ça de cette manière-là. Donc à 18 ans, quand j'ai eu mon premier rapport consenti avec un partenaire que j'ai choisi, ça s'est bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. En plus, je suis tombée plutôt sur quelqu'un de bien. Merci Richard. Merci.
D'ailleurs, on n'oublie jamais celui-là.
Voilà, moi j'ai eu beaucoup de bol, donc voilà. Et du coup, c'était facile par la suite, voilà, d'être installée dans ma corporalité. Et en fait, le vrai déclic a lieu à 22 ans. Et est-ce que je peux dire ça à ce temps-là, à l'antenne de Africa 1 moi, c'est la masturbation, en fait.
Ah bah, pourquoi pas, voilà. Si tu l'assumes.
Voilà, moi, c'est la première fois où je l'ai fait toute seule pour moi-même.
C'est rare, les personnes qui avouent...
Bah ouais, mais parce que pour moi, c'est le fondement même de l'émancipation. C'était la première fois où je réalisais que je pouvais me procurer ce plaisir-là par moi-même. Et qu'en fait, l'autre, le partenaire, n'avait pas une recette miracle qui me faisait jouir. En fait, j'étais capable, j'étais outillée pour et j'avais tout ce qu'il fallait pour déclencher ça. Et ça a changé complètement ma manière, pour le coup, de vivre mes relations intimes. Parce que j'ai compris que je pouvais choisir, quel que soit le partenaire que je pouvais choisir, ça parlait de la disposition que j'avais à jouir avec ce partenaire et pas de ses capacités à me faire jouir. Donc, ça change tout. Et j'ai toujours, aujourd'hui, voilà, à 47 ans, ce rapport-là à ma sexualité, à mes histoires, à mes histoires amoureuses ou mes histoires sexuelles. Ça part d'abord de soi. Et c'est vraiment, pour moi, la chose la plus, la chose dont je suis le plus fière, parce que, entre la fille de 11 ans sur le canapé, sous l'assaut de ce monsieur et la femme que je suis voilà là ce matin à l'antenne qui te parle
non,
de
franchement,
ça
on pourrait parler pendant des heures voilà mais c'est vrai c'est
et
vrai
tu vois je me dis
j'ai gagné
il a pas gagné quoi
ouais voilà.
J'ai gagné ouais c'est ça j'ai gagné ouais. J'ai réussi à conquérir tout ça moi et voilà. Je suis plutôt reconnaissante, quoi.
Bravo. Et justement, c'est à travers ces podcasts, Me, My Sex and I. Comment on fait si on veut les écouter, ces podcasts?
Alors, vous allez au choix sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Ico Podcast, enfin sur toutes les plateformes de podcast, sauf une. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi. Spotify, qui est un mystère en France. On ne sait pas comment est-ce que les podcasts sont recensés dessus. En tout cas, nous n'y sommes pas. C'est la seule plateforme où on ne le trouverait pas. Et sinon, vous allez tout simplement sur SoundCloud, qui est donc un site www.soundcloud.fr ou .com. Et vous tapez Me, My Sex and I, voilà, donc tout en anglais, voilà, parce que voilà, c'est comme ça que s'appelle le podcast, et vous allez tomber sur nous, et sinon, plus simple encore, en vous plus, allez tout simplement sur le site www.parlonsplaisirféminin.com.
Voilà, c'est très pratique, comme ça vous les écoutez, vous les emportez avec vous si vous voyagez dans l'avion, etc. Franchement, Axel, je serais restée beaucoup plus longtemps, ça a été très agréable, t'as même presque réussi à me faire pleurer.
Ah, ouais, mais c'est le matin.
Voilà. Merci d'être venu te livrer, te raconter, parler également de ton actualité sur l'antenne d'Africa numéro 1. Et puis on se retrouve demain dans les nouveaux rendez-vous.
Bah
santé.
Ouais, du coup, c'est bizarre, mais oui, à demain.
Merci beaucoup, Axel, d'être venu sur le plateau. Dans un instant, on retrouve notre ami Adonaïs Yankan. C'est le moment, c'est dans un instant.